Question d'islam par Al-Bunshi. Aujourd'hui, nous parlons d'un roman historique, de manuscrits perdus, d'une relation de voyage, tout cela avec la romancière, l'essayiste, l'historienne Mouna Hachim. Mouna Hachim, bonjour.
Bonjour.
Je suis extrêmement heureux de vous accueillir pour nous édifier avec votre dernier ouvrage qui parle de ces manuscrits perdus. Nous prendrons connaissance très vite de cette idée, de ces objets, de ces manuscrits. Mais je suis sûr que nos auditeurs vous en sauront gré parce que votre roman historique ou votre part d'histoire romancée, je ne sais plus comment je présente les choses, sont d'une grande minutie et ça nous décrit les relations cette fois-ci, non plus au sens de relations de voyage, mais entre chrétiens et musulmans. Il y a une part de communauté juive entre l'Espagne et le Maroc, entre l'Afrique du Nord et une partie de l'Europe, et tout cela entre le milieu du XVIe siècle et le milieu du XVIIe siècle. Donc c'est une fresque historique sur quasiment un siècle, mais qui se trouve à cheval sur deux siècles décisifs dans l'histoire, disons, de la partie occidentale de la Méditerranée. Encore une fois, bienvenue à vous.
Merci.
Et comment êtes-vous amené à vous intéresser à ces manuscrits perdus et de quels manuscrits s'agit-il ?
Alors, j'ai découvert ce personnage en faisant des recherches préalables dans le cadre de mon livre précédent sur les noms de famille du Maroc. Et je trouvais intéressant ce personnage qui vivait un petit peu entre deux mondes.
Pardon, le personnage, c'est le héros
le
de
héros
votre
principal, puisque
roman.
Voilà, parce que le roman est basé évidemment sur des événements réels et sur un personnage qui a réellement vécu, qui s'appelle Ahmed ibn Qasim al-Hajari, de son nom musulman, mais il est né dans un contexte d'inquisition où l'islam et la langue arabe étaient totalement interdits. Et donc il est né chrétien sous le nom de Diego Bejarano. Et est plus connu sous son surnom d'Afoké, que j'ai adopté dans le roman. Donc cette période est extrêmement intéressante parce que effectivement on est à cheval entre deux mondes.
Alors pour donner simplement sa trajectoire de vie et de date, il est né en 1568, mort aux alentours de 1640.
Voilà, mais je ne vais pas jusqu'au bout. Au fait, c'est une histoire. C'est-à-dire, j'ai arrêté son histoire au Maroc parce que son aventure va se poursuivre par la suite dans d'autres pays du Proche-Orient et au Maghreb, notamment en Tunisie. Et donc, d'abord, je me suis intéressée au personnage et puis en découvrant, parce qu'il a laissé une relation de voyage qui est considéré par certains auteurs comme un pamphlet antichrétien au vu du contexte de l'époque d'Inquisition et qui me sert de trame, au fait, pour retracer...
Qui s'intitule « Le défenseur de la foi contre les infidèles ».
Contre les infidèles, tout à fait. Et à partir donc de cette relation de voyage, eh ben, je fais une saisissante découverte, puisque lui, il aurait été sollicité dès le début, pendant qu'il vivait à Grenade, en tant que traducteur officiel, mandé par l'archevêque lui-même, afin de traduire des documents mystérieux qui ont été découverts dans la ville. Et c'est là où je fais donc ces découvertes de ces livres qui sont absolument fabuleux. Et je considère que ces manuscrits sont un personnage à part entière à côté de l'histoire d'Afoké.
Alors dites-nous s'il vous plaît, si nous plantons, si je puis dire, la scénographie, le décor. Nous sommes à Grenade.
Oui.
Le héros principal, donc Afoké, est né à Grenade.
Oui.
Et c'est pas lui qui découvre ces manuscrits, il en prend connaissance.
Oui. Alors, il y a des divergences sur le lieu précis de sa naissance. On ne sait pas si c'est à Grenade ou si c'est en Estramadure. Quoi qu'il en soit, moi j'ai opté pour Grenade dans le roman. Il y a aussi un doute qui va pratiquement sur une année quant à la date précise de sa naissance, mais c'est un détail. Alors, ces manuscrits C'est en 1588 exactement, au moment de faire des... Enfin, on détruisait au fait le minaret de la mosquée Nasrid pour continuer les travaux de la cathédrale, plus exactement les travaux de construction de la troisième nef de la cathédrale. Qui se trouvait, apparemment, cette mosquée Nasrid se trouvait elle-même sur l'emplacement d'une ancienne tour d'observation phénicienne. Et donc, des ouvriers font la découverte d'un coffre en bois, lequel coffre contient un parchemin écrit en langue arabe, portant la signature d'un apôtre qui s'appelle Saint Cécilio, qui est devenu par la suite Saint Patron de Grenade. On découvre dans ce même coffre la relique d'un martyr. On découvre un morceau de toile de la Vierge qui se retrouvera parmi les reliques de l'Escurial. Et une photo aussi de la Madone, une image de la Madone vêtue à l'égyptienne. Et puis à côté de ce parchemin qui est écrit en langue arabe par cet apôtre Saint Cécilio, il y a en bas la prophétie de Saint Jean sur la fin du monde qui est enfermée dans une espèce de carré magique et qui mêle des caractères grecs, romains et arabes. Ça, c'est la première phase de la découverte. Et ça, c'est du vrai, c'est pas de la romance. Hein. Ça, c'est n'importe qui peut le vérifier
et
en faisant des
brèves recherches. Et les caractères sont à la fois de la graphie et des chiffres.
Voilà. Et donc, ça se présente vraiment comme quelque chose de très hermétique à comprendre. Et c'est pour cela qu'on a fait appel à tous ceux qui maîtrisaient l'arabe, même si l'arabe était interdit à cette époque-là de la découverte. Très peu de temps après, 7 ans exactement après cette première découverte, dans un quartier gitan, proche de la ville, mais évidemment qui est aujourd'hui dans le périmètre même urbain évidemment de la ville, qui s'appelle le Valparaiso, qui va devenir ensuite le Sacromenté, El Sacromenté, vu la stature et la nature des découvertes qui ont été faites. Là, ce sont des chasseurs de trésors munis d'un plan, qui sont en train de chercher cette fabuleuse mine du roi Roderic. D'autres disent que c'est des trésors qui ont été cachés par les musulmans avant le départ de Grenade. Et donc, dans cette grotte, ils vont découvrir, là encore, des cendres de martyrs chrétiens de l'ère apostolique, puisque à côté, il y avait des livres de plomb. Et donc, ils vont remettre ça aux autorités de la ville. Et jusqu'en 1600, on va continuer à exhumer de la grotte quelque chose comme 22 livres de plomb qui contiennent à peu près 233 feuillets qui ont la taille de la paume d'une main.
Alors on les appelle livres de plomb parce qu'ils sont blindés, comme on dit, pour leur première de couverture. On aurait dit la quatrième de couverture en plomb.
Voilà, tout entier je pense.
Ah, tout entier, oui, voilà, même les pages.
Oui, exactement, tout entier. Tout entier, et donc ils sont gravés, et ils sont, et leur caractéristique évidemment, c'est qu'ils sont écrits pour la plupart en langue arabe, sans les signes diacritiques qui sont caractéristiques de la langue arabe maintenant, mais qui apparemment sont une marque d'antiquité, puisqu'on les appelle même, on l'appelle même l'écriture salomonique en référence au roi Salomon. Et donc là, vous vous rendez compte, c'est quelque chose, c'est une découverte qui est. Qui est saisissante et pour laquelle on va faire appel à ces morisques qui sont ces musulmans, ces anciens musulmans, les vieux musulmans comme on les appelait en Espagne par distinction les nouveaux musulmans par distinction avec les vieux musulmans.
Les nouveaux par chrétiens,
excusez-moi, oui, pardon, oui, c'est ça, exactement.
Ce qui est curieux, c'est qu'on oppose nouveau à vieux,
voilà.
On ne dit pas jeune.
Exact.
Pour revenir à ces livres de plomb, oui. Puisqu'ils sont écrits en lettres sans les points diacritiques,
oui.
C'est-à-dire qu'on a des lettres homographes, comme
oui.
On dit. Alors comment, mais on le verra peut-être que j'ai anticipé, ceux qui viennent les décrypter ou les déchiffrer vont pouvoir comprendre s'il n'y a pas les points diacritiques.
Ben justement, c'est là la difficulté et pas l'unique difficulté, parce que y a d'autres... C'est le mot, c'est très hermétique et c'est plein de symboles. Et d'ailleurs, on retrouve aussi souvent dans ces livres cet hexagramme qu'on appelle Sceau de Salomon ou Étoile de David, c'est selon. Donc c'est assez mystique, c'est très très difficile à la compréhension. Concernant les points, j'ai repris dans le roman une anecdote qu'on retrouve dans le livre des chansons qui s'appelle Arani d'Isfahani et dans lequel il dit que un gouverneur avait demandé le gouverneur de Médine de recenser tous les chanteurs de la ville et il avait utilisé le mot ihsi. Et donc ihsi, ça s'écrit avec une lettre où il y a pas de point. Et donc lui, il a compris ihsi qui s'écrit avec un point. Donc c'est le ha avec un point. Ce qui veut absolument pas dire, qui veut dire absolument pas du tout la même chose, parce que RC veut dire recenser et RC veut dire castrer, et donc ils ont castré tous les chanteurs de la ville à cause d'un point en trop. Donc c'est juste pour dire que ces points sont fondamentaux pour
et
la compréhension.
C'est pour ça qu'on a eu des chants exécutés ou produits par des castrats.
Oui.
Bon, ça c'est l'anecdote à propos de ce que peut valoir un point diacritique sur une lettre. Vous avez dit que cette découverte était saisissante.
Oui.
Et donc les autorités, notamment les autorités ecclésiales, les ecclésiastiques ont fait appel à des morisques censés maîtriser la langue arabe.
Voilà, tout à fait. Parmi eux se trouvait donc Afoké. Et donc dans ces livres, on va découvrir que des apôtres vivant au 1er siècle, bien sûr, ordonné par Saint-Pierre et Saint-Paul, disciples de Saint-Jacques le Majeur, vont se retrouver dans ce qu'on appelait l'Hispanie pour les évangéliser et ils auraient péri des mains des soldats de Néron. Et donc ce sont ces cendres-là qu'on a retrouvées sur place, leurs cendres qu'on aurait retrouvées et les livres entre ceux qu'ils ont écrits et ceux qu'ils ont ramenés avec eux d'Orient, avec, entre autres curiosités, le livre de Marie, qu'on appelle l'évangile de Marie, ou l'évangile de la vérité. Et donc, c'est quand même sidérant en termes. Et donc, non seulement ces apôtres sont venus d'Orient avec des livres écrits en arabe, mais ils seraient, pour certains d'entre eux, arabes de nation. Ce serait le cas de Saint Cécilio, qui est devenu le saint patron de Grenade, et ce serait le cas de Thésiphante, saint Thésiphante, son frère.
Bien entendu, l'évangile de Marie est considéré comme un évangile apocryphe par l'Église catholique.
Alors au début, ce qui est étrange, c'est que évidemment il y a eu une tentative de récupération, parce que même la nature même de ces livres et subversive du point de vue chrétien, puisqu'il y a ce que certains peuvent appeler une tentative d'osmose entre chrétiens et musulmans, et d'autres peuvent considérer que c'est une atteinte fondamentale au dogme, puisque ce serait dans la proclamation de l'unicité divine, il y a forcément la négation de la divinité de Jésus. Et ça pouvait pas être accepté par l'Église. Mais dans un premier temps, il y a eu des tentatives de récupération. Pourquoi ? Parce que ces découvertes permettaient de réécrire l'histoire de Grenade, qui devient une ville liée au christianisme primitif, hissé dans la sainteté, en occultant plusieurs siècles de présence musulmane. Cela permet de mettre en avant le rôle de l'Espagne au détriment de Rome, donc une espèce d'autonomisme. Et puis en même temps, il y avait une sorte de pied de nez à faire au calvinisme de l'époque qui réprouvait le culte des saints. Mais évidemment, comme il y avait des défenseurs de ces livres de plomb, malgré leur caractère subversif, y compris au sein des autorités religieuses de la ville, il y avait des farouches opposants qui ne pouvaient tolérer évidemment que des premiers apôtres soient arabes, que ce soit eux qui ont évangélisé l'Espagne, sans oublier évidemment la nature même du message lié à la révélation et à la négation de la divinité de Jésus. Et donc ces livres vont être convoqués par le Saint-Siège, ils vont se retrouver à Rome et ils vont finir par être totalement interdits. Certains considèrent même parmi les les historiens contemporains considèrent que ce seraient des faux rédigés par les morisques. Les autorités religieuses au Vatican ont décrété que c'était une hérésie destinée à miner la foi chrétienne et ils les ont confisqués jusqu'en 2000. En l'an 2000, où ils ont été remis aux autorités de Grenade par le cardinal Ratzinger en personne.
C'est pour dire que leur histoire, finalement, a couvert au moins trois siècles. Revenons à notre ami à Fouquet, donc Diego Bajarano, son apparition comme ça. Pourquoi lui? C'est sa formation, c'est un morisque, c'est un nouveau chrétien ou un crypto-chrétien, parce qu'en réalité, crypto-musulman, puisqu'en réalité, il n'a pas cessé de professer la foi islamique.
Oui, tout à fait.
Et quelle est sa formation?
On n'a pas une idée précise de sa formation, parce que moi, dans le livre, dans le roman, je lui ai prêté un métier d'apothicaire. Mais au fait, au moment de la découverte, il était, au moment de la traduction, il était très jeune. La première découverte, il avait 19 ans.
Oui, donc ça reste quand même,
voilà, ça reste relativement jeune. On le présente en général comme théologien, comme traducteur depuis qu'il est devenu traducteur. Et puis, au moment de choisir sa terre d'exil au Maroc, il va devenir traducteur officiel des autorités de la ville et puis diplomate, puisqu'il va être envoyé en ambassade. Et lui, comment il raconte ce contact qui a été opéré avec les autorités de la ville? C'est tout simplement en étant un jour avec un ami qui, lui, était le petit-fils d'un grand traducteur et lui-même traducteur officiel. Et à chaque fois qu'il butait sur un mot, lui, il venait corriger. Et donc là, ils se sont doutés qu'il maîtrisait l'arabe. Et dans un contexte quand même de féroce inquisition, parce que c'est des gens qui pouvaient finir pour un oui ou pour un non sur un bûcher. Malgré tout, il a été appelé auprès de l'archevêque de la ville. Et donc lui, il pensait que son sort était réglé ce jour-là. Mais au fait, c'était pour lui présenter les manuscrits. Et donc, on lui a donné juste une bribe à traduire, et quand ils ont vu qu'il avait une forte maîtrise, parce que lui, contrairement aux autres, son arabe, et d'ailleurs on le voit dans sa relation de voyage, son livre est bourré de dialectisme, il ne maîtrise pas parfaitement l'arabe, mais il avait cette possibilité de faire des connexions extraordinaires, et justement pour la traduction de ce carré magique, il a fait des connexions entre les chiffres et les lettres, et donc là ça demande un savoir-faire particulier qui ressemble un peu à ce qui se fait dans la Kabbale. Et...
Alors vous racontez cette rencontre avec l'archevêque de la ville de Grenade. Lui, il pensait qu'il allait être soumis à la question, mais comment il va être apaisé, comment il va être introduit, en tout cas au moins convié à prendre part pour traduire, déchiffrer et le carré magique et les autres parties des livres.
Donc l'archevêque va lui donner une phrase à traduire où, en quelque sorte, il est dit qu'il fallait établir la conjonction pour pouvoir comprendre le parchemin. Et il va réussir justement à traduire parfaitement cette phrase qui était écrite à la base en arabe et à expliquer qu'il fallait faire justement une concordance entre les chiffres et les lettres, parce qu'il y a une concordance, à chaque lettre correspond un chiffre. Et donc, au vu donc de sa maîtrise, on l'a convoqué pour traduire le reste des documents. Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé non seulement à traduire dans un premier temps le parchemin qui a été découvert dans la tour de la mosquée Nasrid, qui a été écrit par Saint Cécilio, mais en plus de ça, le carré magique qui comprend des secrets sur la révélation, mais aussi des choses un peu...
Dans la grotte du Sacromenté.
Et dans la grotte du Sacromenté, il y a les livres écrits par ses apôtres, y compris par Saint Cécilio. Parce que là, il y a évidemment correspondance entre les deux découvertes, faites par les, correspondant au même personnage et au même contenu. Et donc là, oui, il va traduire les livres de Saint Hésiphonte, de Saint Cécilio, d'autres personnages. Des fois, il y a des plaques beaucoup plus courtes. Par contre, le livre de Marie, qu'ils appellent l'Évangile de Marie, est appelé le livre muet, parce que c'est un livre qui est
quasi
impossible à déchiffrer. Voilà, bien. Exactement.
Mmh. Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec Mouna Hachim, à la fois historienne, essayiste, romancière. Nous parlons ensemble d'un fait saisissant, puisqu'il s'agit de ces manuscrits perdus, les livres de plomb. En tout cas, moi, je suis fasciné et le sujet est exaltant. Et ce sont des manuscrits en langue arabe qu'un morisque du nom d'Afoké a réussi à pénétrer le sens et à traduire. Donc poursuivons pour connaître davantage ce traducteur, polémiste aussi de son état. Comment se fait-il qu'il est à Grenade alors que ses parents sont restés à Séville ?
Aucune idée, vraiment.
Il vit seul,
mais là, vous savez, je vais vous dire une chose. Lui, dans la relation de voyage, parce qu'il en avait écrite une qui s'était perdue, et il en a fait une forme abrégée. Et c'est celle qui est à notre disposition, à la disposition de tous, parce qu'elle est même disponible sur Internet en langue arabe. Des traductions, je pense, ont été opérées peut-être aux Pays-Bas. C'est pour dire que il y a très 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 peu d'éléments relatifs à sa vie. Et donc c'est un petit peu mon imagination qui est obligée de faire le reste pour essayer de et puis même de trancher par rapport à certaines questions sur le lieu exact de sa naissance, sur l'année même de sa naissance. Mais il semblerait que ses parents aient été exilés, comme ça a été souvent le cas dans cette période, encore une fois, d'Inquisition, où on a éprouvé le besoin de séparer les communautés musulmanes et les regroupements, et où les populations, par exemple, de Grenade, et surtout à la suite de la fameuse guerre de l'Alpujarras, on a dispersé les populations. Il y a eu même un édit royal relatif à cela, et qui disait qu'il fallait pas laisser plus de deux personnes d'une seule communauté dans un seul lieu. Et donc c'est en ce sens que ses parents se seraient retrouvés à Séville. Et disant que lui, ce serait pour des raisons d'ordre professionnel qu'il a été amené à s'installer à Grenade et à y rester.
Il a eu une voisine qui s'occupe plus ou moins de lui.
Voilà,
bien, en tout
voilà
cas.
Exactement, tout à fait. Donc une petite vie communautaire agréable.
Alors, finalement, pourquoi décide-t-il, et pas seul en plus, de partir, parce que l'atmosphère est étouffante, il y a une nostalgie, il a envie de vivre au grand jour sa foi de musulman.
C'est exactement ça, c'est oui, parce que dans le contexte de l'époque, il était interdit à tout nouveau chrétien de quitter la péninsule, au risque d'y perdre la vie. Autant au début, au moment de la chute de Grenade, dernier bastion islamique en péninsule ibérique, on a demandé aux populations de choisir entre la conversion ou l'exil. Ensuite, il y a eu des conversions forcées à partir de 1500. Il y a eu d'abord une tentative d'évangélisation en douceur par frère Hernando de Talavera, qui lui était appelé le saint théologien, El Santo El Faqih, qui faisait son évangélisation tout en douceur. Mais devant son échec, il y a le grand inquisiteur Jiménez Cisneros, qui était le conseiller donc d'Isabelle de Castille. D'ailleurs, il disait à sa royale pénitente, si on ne peut pousser les morts, amener les morts dans les chemins du salut, il ne faut pas craindre de les y pousser. Et donc, il y a eu un ensemble, parce que pour comprendre cela, il faut revenir justement à ce contexte historique où il y a eu un ensemble de mesures discriminatoires, parce que de toute façon, selon l'expression consacrée, avant même que l'encre n'ait séché de cet acte de capitulation de Santa Fe, signé entre les rois catholiques et le dernier roi de la dynastie Nasrid Bouabdil, un ensemble de mesures discriminatoires vont être imposées les unes après les autres, qui vont d'abord viser les populations les plus vulnérables, à savoir les juifs, puisque le judaïsme a été décrété, je cite, un crime grave et détestable, et donc poussant les juifs à la conversion ou à l'exil, au mépris des clauses de capitulation qui imposaient le respect du culte,
oui,
et de la
croyance. Le départ de Mohammed Bouabdil ayant lieu le 2 janvier 1492 et les premières expulsions, les premiers exils, les premiers départs, c'était déjà dès le mois d'août de la même année pour les juifs. En revanche, pour les musulmans, il faut attendre en gros 1500 pour que les choses se corsent.
Oui, alors oui, effectivement, mais après les grandes familles proches des cercles du pouvoir, dotées de grandes fortunes, dès qu'elles ont senti le vent tourner, elles ont choisi ou de collaborer directement avec les chrétiens, de se convertir, de rester sur place, comme ça a été le cas pour de grandes familles. D'autres ont préféré, évidemment, prendre le chemin de l'exil et s'en aller le plus tôt possible, parce que de toute façon, il y avait changement manifeste de la situation. Et donc, évidemment, ce sont les classes les plus défavorisées, les classes moyennes, qui se sont senties trahies par leur élite, obligées donc de composer comme elles le pouvaient avec les décrets qui tombaient les uns après les autres. Et c'est effectivement à partir de 1500 que les choses se corsent. D'ailleurs, cette année 1500, c'est l'année de ce grand auto-da-fé fait par Jiménez Cisneros, l'inquisiteur général, archevêque de Tolède, et qui avait brûlé quelque chose comme 8000 manuscrits islamiques et des exemplaires du Coran devant la porte Bibrambla, qui avait poussé les populations à se révolter, lui à s'enfermer dans sa maison de l'Al-Kassaba. Et puis de là, ces populations ont trouvé refuge dans ces montagnes de l'Al-Pukharas, où par la suite, ils sont livrés à la révolte. Et effectivement, à partir de là, les choses se corsent, parce que pratiquement à la même époque, on a obligé les musulmans à choisir entre la conversion ou l'exil. L'exil sans leur fortune et surtout sans leurs enfants, qui sont jugés plus facilement assimilables. Et c'est un décret qui va être ensuite imposé à toute l'étendue de la couronne de Castille. Ensuite, en 1523, c'est Charles Quint qui impose cela à la couronne d'Aragon. Et puis, il y a évidemment son successeur, Philippe II, qui est ardent défenseur de la foi et qui va imposer des mesures qui ne touchent plus seulement la religion, parce qu'ils étaient censés être chrétiens maintenant. Mais par contre, qui touchaient les habitudes vestimentaires, les coutumes, les traditions, tout signe distinctif au fait de leur identité qui était banni, jusqu'au paroxysme final qui va avoir lieu, mais à ce moment-là, Afoké était déjà au Maroc. C'était en 1609 avec un décret imposé par Philippe III qui est entré en application en 1610, qui va s'étendre jusqu'en 1614 et qui visait à l'expulsion de tous les nouveaux chrétiens de péninsule ibérique, et qui est considéré par des historiens espagnols comme étant le premier cas moderne de purification ethnique.
Afoké, lui, comme il est né en 1568, est considéré donc comme étant de deuxième génération.
Voilà.
Ce sont ses parents qui, eux, s'étaient convertis malgré eux, finalement.
Malgré eux. Donc, comme je le dis dans le roman, lui, il est resté musulman dans sa maison et dans son cœur, parce que...
Et donc, ce sont ses parents qui lui ont transmis l'islam. Cet amour de la tradition religieuse islamique.
Exactement, parce que son grand-père aurait été déjà théologien. Le cheikh Al-Hajari était lui-même théologien, donc son père possédait encore des livres islamiques qui étaient combattus comme des armes de guerre. Donc, il était interdit d'avoir des livres en arabe, donc ils étaient gardés soigneusement à la maison, dans des carreaux de zellige, préservés contre l'humidité, etc. Et donc, tout se faisait dans le secret pour éviter justement les dénonciations qui pouvaient se faire pour une cruche d'eau portée à une maison, les bains qui étaient fermés, bien sûr, parce que assimilés aux ablutions des musulmans.
Oui. Et pourquoi décide-t-il, pourquoi, comment, puisqu'on verra qu'il a un compagnon d'aventure pour partir donc de la péninsule ibérique au royaume de Marrakech.
Voilà. Voilà, pour vivre tout simplement pleinement sa foi, parce qu'il devait être quand même dur de circuler. Donc, c'est pour ça que j'ai retracé brièvement ce contexte historique, pour expliquer qu'il est quand même très difficile de vivre dans cette ambiance de brimade, de persécution, où il faut se cacher pour exercer sa foi, pour parler sa langue, pour suivre ses coutumes, tout simplement. Par exemple, un exemple tout bête, quand il se retrouve au Maroc, il est convié à manger un couscous. C'est un plat dont il avait toujours entendu parler, qu'il n'avait jamais goûté, parce que c'est un plat qui avait été interdit en tant que plat communautaire, parce qu'évidemment lié au vendredi, parce que c'est un plat qu'on mangeait surtout le vendredi, le jour de la prière communautaire.
Et donc... Et il était interdit de manger carné le vendredi, donc on soupçonnait ceux qui pouvaient ne pas manger de poisson, ne pas faire maigre, comme étant encore une fois des crypto-musulmans.
Exactement. D'ailleurs, ça lui est arrivé lors de son ambassade en France, où ils ont été convoqués par...
Mais ça, c'est bien plus tard. Il était à Bordeaux, je crois.
Oui, il a fait beaucoup de vie. Oui, exactement. Mais c'est à Bordeaux que c'est arrivé, oui, tout à fait. Et donc, c'est là où il a décidé de prendre le chemin de l'exil. Et donc, il a dû quand même ruser pour pouvoir fuir la péninsule dans un contexte où tout au départ était assimilé à...
Oui, le voyage était rocambolesque, il a failli se faire attraper. Donc ça, j'invite nos amis auditeurs à aller voir davantage les péripéties de ce voyage. Comment très vite était-il admis à la cour du roi Al-Mansour, le victorieux, le grand roi?
Oui, alors lui au Maroc, il va se retrouver d'abord à Mazagan, qui est une enclave portugaise. De là, il va s'échapper à Azmour, qui est la ville musulmane la plus proche. On est toujours sur la côte atlantique, parce que voilà, ils sont venus par voie bien sûr maritime. Et de là, il va prendre la direction de Marrakech, qui est la capitale impériale. Parce que à Azmour, dans cette ville musulmane, il a été récupéré par le gouverneur de la ville. Et le gouverneur, quand il a vu son éloquence, son langue arabe, et pour eux, c'était une grande curiosité, parce que l'arabe n'était plus censé avoir cours en péninsule. Donc, il a demandé à le présenter au sultan. Et donc, il arrive...
Avec un léger accent andalou.
Et certainement aussi, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de dialectisme qui tranchait un peu avec la rigueur linguistique d'usage, mais qui était totalement compréhensible dans le contexte de l'époque. Et donc là, il va se retrouver à Marrakech auprès du grand sultan saadien Ahmed Mansour Tahbi, dans un contexte où le Maroc formait un puissant empire, conquérant de l'or du Soudan, parce que là, évidemment, je fais allusion
à certains... Et donc, c'est ça qu'on appelle Dahbi, c'est-à-dire le doré, en quelque sorte,
voilà.
ou l'ori...
L'orique.
Enfin, oui. Quelqu'un qui a beaucoup d'or.
Voilà, tout à fait. Alors, il y a deux versions. Il y a celle-ci et il y a une autre version, parce qu'il est aussi victorieux de la grande bataille que les Occidentaux appellent la bataille des Trois Rois, connue au Maroc sous le nom de Ma'arakat Wad al-Makhazin, du nom de la rivière près de laquelle elle a eu lieu. Et cette bataille avait été un désastre pour les Portugais, qui avaient perdu...
Trois rois, enfin il y a eu mort de trois rois en l'espace d'une heure,
voilà.
C'est pour ça qu'on l'appelle la bataille
Exactement.
Des Trois Rois.
Tout à fait. Et parmi ces rois, donc il y avait le roi de Portugal, le jeune roi de Portugal, et donc pour le rachat, rien que pour le rachat de sa dépouille et le rachat de toute l'élite et l'aristocratie portugaise, une bonne partie en tout cas, parce que très très peu sont revenus au Portugal. Donc juste avec le rachat des dépouilles, il semblerait que là encore, il ait gagné une grande fortune. Mais là, c'était dans le contexte même où il est arrivé, c'était quelques années quand même après cette bataille, mais c'était toujours le règne de ce grand roi, bâtisseur d'un palais fabuleux qui s'appelle El Badia, et c'est là où il va se retrouver traducteur officiel.
Oui. El Badia, c'est un peu le prodigieux, l'extraordinaire, le beau, enfin, ce qui est hors du commun.
Exactement, voilà. Tout à fait, qui a nécessité des années voilà, de travail, des artisans venus du monde entier, des matériaux précieux venus des quatre coins de du monde connu. Donc traducteur officiel auprès du sultan, mais très peu il va déchanter, parce que lui, quand il décrit sa période de captivité dans cette enclave portugaise, sa fugue, etc., il avait une sorte de... Il se faisait beaucoup d'illusions, au fait, sur ce paradis qu'il allait retrouver. Et donc, effectivement, quand il arrive au Maroc, il est encore enchanté, parce que c'était l'âge d'or donc de la dynastie saadienne avec ce puissant sultan, lequel tout de suite, après sa mort, selon les versions d'une...
Pardon, Mona, oui. On y arrivera,
oui,
bien
oui.
sûr, tout de suite. J'ai oublié de vous dire que avant de partir, il est allé voir ses parents, il a fait ses adieux, en quelque sorte. Et puis, il a cousu ses manuscrits, ce sont ceux-là qui nous intéressent, dans ses habits.
Oui.
Et alors, ce n'était pas lourd pour lui, et même le temps, par la suite, au Maroc sera chaud, de porter des habits... qui sont alourdis par ces manuscrits de plomb.
Ah non, mais parce que c'est pas les originaux.
Ah, ce sont pas, oui, pas les a copiés.
Oui, parce que c'est pas les. En fait, après, vous savez, je reste dans un univers romanesque, donc il y a des choses, par exemple, relatives au contenu des manuscrits, des choses historiques qui sont de l'histoire et sur lesquelles je n'ai apporté absolument aucune, juste au niveau du style pour les rendre, j'espère, agréables à la lecture. Mais sinon, par rapport à certains épisodes, ben là, c'est mon imagination de romancière qui a essayé de faire le reste. Et donc, j'ai essayé de faire vivre ces manuscrits. De toute façon, lui, il avoue, ou il déclare dans sa relation de voyage qu'il avait rencontré des personnes qui avaient eu des morceaux du manuscrit. Donc, ces manuscrits, ils ont voyagé de toute manière des deux côtés de la Méditerranée. Et ce serait un autre mot risque, dans le roman en tout cas, là on est dans le cadre strictement romanesque, qui lui aurait donné une copie de ses livres de plomb en lui demandant de les préserver au Maroc, sachant qu'ils allaient être très bientôt frappés d'interdit. Et ce personnage, étant proche des autorités civiles et religieuses de la ville, se doutait que ces livres allaient être interdits. C'est parce qu'on était frappé par le décret de l'Inquisition de toucher ces livres ou de parler de ces livres. Et donc, il fallait les faire fuir de l'autre côté où ils allaient être plus en sécurité.
Alors, revenons à ce grand roi. Et on est à la cour de la dynastie des Saadiens. Un mot peut-être sur lui. C'était un grand bibliophile. Il va essayer d'avoir... les ouvrages dont il entend parler, puis il était peut-être aussi dans une logique d'expansion, il va aller jusqu'au Soudan, mais au Soudan au sens du Mali.
Bien sûr.
Et là, il était peut-être aussi impitoyable quand il s'agissait d'élargir les confins de l'Empire.
Certainement. De toute façon, je pense que c'est inhérent au pouvoir et à tout désir expansionniste. Et c'est une question qui me tient particulièrement à cœur. J'ai eu l'occasion d'en parler, déjà de l'évoquer dans mon livre précédent, Histoire inattendue du Maroc. On a un long chapitre qui parle du côté sombre de la dynastie saadienne et qui est cette conquête et l'esclavage qui lui est associé. Évidemment, je reviens là-dessus parce que là encore, c'est le contexte du roman. Et je lui donne vie avec un personnage qui s'appelle Ahmed Baba Tombouctie, que Afoké a réellement rencontré. J'ai eu l'occasion de le découvrir au cours de mes recherches. Et donc, ce personnage, c'était un grand théologien qui avait, comme beaucoup de théologiens maliens à l'époque, avait vu la destruction de sa bibliothèque, son pillage, et Ahmed Baba Tombouctie s'est retrouvé emmené dans les fers. Il est tombé de son chameau, il est arrivé la jambe cassée. C'est juste pour donner une idée, voilà, de la violence de la chose, sachant que à côté de cela, effectivement, ce sont des musulmans qui sont venus soumettre d'autres musulmans auxquels ils ont imposé l'esclavage. Et donc ça, c'est une phase sombre et qui est aussi en contradiction avec, avec certains préceptes énoncés. Et je pense qu'il est bon dans un contexte où on appelle toujours les peuples à faire leur... je dirais pas mea culpa, mais c'est un devoir au fait de... l'histoire est toujours glorificatrice, on en trace toujours les beaux aspects, mais il serait plus juste...
Il faut assumer les parts d'ombre aussi.
Voilà, et voilà, il serait plus juste de revenir aussi sur ces questions-là et d'affirmer que ce n'était pas tout à fait juste d'avoir imposé justement l'esclavage à ces populations, oui, ni que cette conquête, voilà, elle avait pas lieu d'être, tout simplement, parce que c'était motivé par des besoins strictement économiques.
Et matériel
et justifié pour des raisons religieuses liées au califat éternel, parce que eux se revendiquent de la descendance du prophète et donc ils se donnaient tous les droits, ce qui est complètement...
Oui. Vous faites rencontrer et parler ce grand théologien Ahmed Baba Tombouctie, comme son nom l'indique, de Tombouctou, et Afoké.
Bien sûr, oui. Ben, l'occasion a été trop belle, sachant que les deux ont vécu à Marrakech au même moment. Donc c'était l'occasion justement de revenir sur ces questions-là relatives à l'esclavage, parce que Ahmed Baba Tombouctie a fait une épître qui est saisissante d'humanité et qui de facture universelle sur ces questions-là, voilà, qui nous interpelle encore jusqu'à nos jours. Et donc il y a eu un long entretien sur ces questions.
Alors la dynastie saadienne connaît un apogée avec ce roi. Le roi victorieux, le victorieux, c'est Al-Mansour.
Oui.
Après, les choses se compliquent véritablement.
Oui.
Quand ses fils se querellent, et la querelle ici est un doux euphémisme.
Exactement, tout à fait. Donc, le sultan serait mort selon la version officielle d'une épidémie de peste qui ravageait le pays. selon certaines langues bien pendues, il serait mort assassiné par son propre fils qui a hâté sa fin.
Au moment de la prière de l'aube, le matin.
Je ne sais pas du tout, mais il semblerait que ce serait à l'instigation de la mère, donc du prince. Mais bon, là, évidemment, impossible de trancher, mais le fait est là, c'est que c'est une version aussi qui revient dans l'historiographie. Et il semblerait que le sultan, sur son lit de mort, est maudit son fils en lui prédisant un destin très sombre. Et donc, effectivement, il y avait trois enfants du roi, trois princes qui étaient en guerre pour le pouvoir, ce qui va plonger le pays dans une guerre effroyable, une guerre civile, où le royaume va être morcelé en royaume de Fès, royaume de Marrakech. Lui, il va affoquer, il va vivre un petit peu ballotté, disons, entre ces princes et entre ces événements, jusqu'à l'avènement de Moulay Zidane, le troisième prince qui va prendre le pouvoir à Marrakech et qui va le nommer lui aussi en tant que traducteur officiel.
France Culture, question d'islam. Khaled Bencher.
Avec Mouna Hachim et avec ce récit passionnant, comme et vous le faites, Mouna Hachim, comme romancière, vous êtes essayiste aussi, et vous avez des connaissances historiques étendues, notamment sur cette période du 15e, 16e, 17e siècle et les relations entre l'Espagne d'après Reconquista et le Maroc, ou l'Afrique du Nord d'une manière générale. Nous avons vu que Afouquet s'est tenu à l'écart au moment de la guerre civile, et comme c'est Zidane, Moulay Zidane, qui a réussi à imposer l'ordre, il s'est révélé auprès de lui, et donc il a été nommé traducteur.
Voilà, exactement. Ben lui, il ne rêvait... En tout cas,
Fadrogman, Torjuman, l'interprète du roi.
Exact, tout à fait. Et donc, mais chargé aussi de traduction d'ouvrages diplomatiques et savants. D'ailleurs, il va faire la traduction d'un livre d'un astronome juif qui s'appelle Zakuto. Et il va l'appeler l'épître Zakutia. Voilà. Donc, il a fait d'autres traductions que ça. D'ailleurs, on lui prête aussi la traduction d'un ouvrage morisque sur des armes, je ne sais plus lesquelles exactement. Voilà. Et donc, lui, effectivement, donc pendant cet épisode-là, bon, après, c'est là encore mon imagination qui essaie de faire le travail, parce que c'est le vide total sur le plan de la documentation, d'historiographie, même dans sa relation de voyage. Il ne revient pas forcément sur ces choses-là. Mais évidemment, en construisant le personnage, en essayant de lui prêter une psychologie solide, on essaie un petit peu de deviner comment les choses auraient pu s'opérer. Donc voilà, il est resté à l'abri de ces querelles. Il se serait installé dans une vallée verdoyante à côté qui s'appelle Lorica.
Alors, parle maintenant de ces épousailles avec une jolie et belle Dalila.
Oui.
Et donc, dans cette vallée-là, c'est même une préfiguration des temps paradisiaques.
Voilà.
Il est heureux avec son épouse.
Oui.
Il aura deux enfants, un garçon et une fille.
Exact.
Bon. Ça, c'est de votre imagination ou ce sont les faits historiques?
Je sais qu'il a des enfants, mais très peu d'éléments. Et puis, voilà, donc j'ai essayé Bon, évidemment, on n'a aucune information sur sa femme, comme ça se fait très souvent dans les livres de l'époque. On est tellement taiseux sur ces choses-là qui relèvent de l'intime, du harim, et
oui.
Donc presque empreint d'une notion de... d'interdit, en tout cas.
Et de sacré.
Et donc voilà, et donc pas forcément exhibé au grand public.
Et il sera finalement l'émissaire du roi, donc son ambassadeur. Dites-nous d'abord pourquoi, quel était l'objet de cette ambassade. Et il passera encore un moment en Europe.
Exact. Alors, tout à l'heure, je parlais du décret qui avait été imposé par Philippe III. En Espagne, en 1609, qui entrait en application en 1610 et qui visait à l'expulsion de tous les morisques de péninsule ibérique vers ce qu'on appelait, entre guillemets, la Berbérie. et qui correspondent, ce qui correspond évidemment au pays du Maghreb. Bon, c'est Maurice qui se chiffre à quelques 300 000 personnes. Vont se retrouver partout, même en France, aux Pays-Bas, un petit peu partout.
Ils étaient agglutinés, on imagine la scène, du côté des Pyrénées,
mais oui,
en grand nombre.
Oui, et alors, donc il y a une partie qui avait choisi la voie terrestre, et donc là, ils vont piétiner dans les régions, dans les cols, les régions montagneuses, entre l'Espagne et la France. D'ailleurs, ils vont laisser leur nom dans la toponymie, sous la forme Mourisco et tout, parce que, bon, ils sont assimilés des fois aux gitans, ils sont assimilés à des populations comme ça, un peu étranges, avec leurs costumes, avec leurs rites. Et puis, d'autres ont choisi les voies fluviales ou maritimes. Et il y a un passage dans le roman, mais évidemment basé sur des recherches, où on disait à l'époque que les Provençaux avaient surnommé les sardines grenadines du fait qu'elles se soient repues de la chair des morts jetées en pâture aux poissons, victimes de maladies, d'épidémies, voilà, et des fois même tout simplement de la convoitise des mariniers qui les balançaient par-dessus bord après les avoir dépouillés. D'ailleurs, c'est postérieur au fait, mais il y a un texte de Richelieu, cardinal Richelieu, qui est saisi sur le drame des Morisques, parce qu'il faut essayer d'imaginer ces populations comme ça, totalement dépouillées, parce qu'ils n'avaient le droit de porter que ce qu'ils le pouvaient sur eux. Donc c'est des scènes tragiques.
Et parfois quand ils avaient de l'argent, ils se faisaient, on dit aujourd'hui, agresser et pour être aussi dépouillés de leur dernier sou.
Exactement, et c'est ce qui s'est passé. Et donc ce sont des Morisques totalement dépouillés qui sont arrivés auprès, et là c'est de l'histoire, là c'est attesté, ils sont arrivés auprès du sultan Moulay Zidane à Marrakech pour d'abord demander l'accueil au Maroc et pour demander qu'on justice après qu'ils aient été dépouillés par des marins qui les transportaient au fait de...
Et là, la justice leur avait été rendue.
Oui, elle leur a été rendue, oui, exactement. Et donc, de là, la mission attribuée à Afoké en tant qu'ambassadeur du sultan dans ce qu'on appelle, dans le roman, le pays des Francs et le pays des Flandres, soit la France et les Pays-Bas. Et c'est ainsi que commence son ambassade et c'est ainsi que commence la troisième partie du roman.
Oui, et c'était davantage pour plaider la cause donc de ces Morisques, et vous présentez aussi le grand faste quand il s'agissait de l'accréditation en quelque sorte d'Afoké comme ambassadeur. Comment il a donné des présents, comment les choses se sont passées. Là, c'est aussi de l'histoire ou il y a une part de votre imagination?
Ah, il y a un peu de tout. Parce que des fois, il y a très très peu d'éléments historiques sur lesquels je suis obligée. De toute manière, j'étais obligée de beaucoup me documenter pour ne serait-ce qu'avoir une idée sur la ville, la situation de la ville à l'époque. Parce que lui, il va prendre le bateau à partir du port atlantique marocain de Safi. De là, il va se retrouver au port du Havre de Grâce. C'était en 1611. Depuis le Havre de Grâce, il va se rendre à Rouen. Et puis de Rouen, il va aller à Bordeaux. Ensuite à Paris, à Saint-Denis. Et puis ensuite à Olonne en Vendée. C'est-à-dire qu'il va rester quasiment une année et demie en France, où il va faire la rencontre avec des personnalités politiques, mais aussi avec des intellectuels, parce qu'il ne faut pas oublier que ça reste aussi un homme de savoir, de connaissance. Donc il va rencontrer, et là c'est attesté, il va rencontrer un personnage comme Étienne Hubert, qui était professeur d'arabe au Collège de France.
Joute. À propos de la véracité ou de la vérité contenue dans les traditions religieuses.
Exact, tout à fait. Et donc, ça me permettait aussi de continuer à parler de ces manuscrits par un moyen détourné. C'est-à-dire que ces manuscrits, même quand on n'en parle pas directement, ben, sur leur contenu, sur le fond de ces différences doctrinales, disons, entre chrétiens et musulmans, c'était un peu l'occasion de revenir sur ces questions-là. en sachant que c'est des débats théologiques qui ont réellement eu lieu avec des intellectuels chrétiens et juifs à la fois en France et aux Pays-Bas, parce que tout de suite après, il va se rendre aux Pays-Bas où on va le retrouver à Amsterdam, à Leyde et à La Haye, où il va rencontrer le prince d'Orange.
Bien. Mouna Hachim, nous approchons vraiment de la fin de notre émission. Il va retourner au Maroc. Et là, c'est davantage la désillusion qu'autre chose.
Ben oui, parce qu'au début, il disait dans une missive qu'il avait envoyée au prince Al-Mansour avant de le rencontrer, il disait qu'il quittait, entre guillemets, je le cite, la gêne au fait et au vu des persécutions qu'il subissait, etc. Et qu'il était heureux de retrouver ce paradis. Mais au fait, là, c'est le désenchantement total, puisque on se rend compte, au fait, dans l'absolu, que ces Mauriques n'étaient pas si bien traités que cela en terre musulmane. Et là encore, c'était proportionnel à leur fortune. Des familles qui étaient dotées de grandes fortunes, et c'était le cas hier comme aujourd'hui pour les migrants, étaient reçues absolument sans aucun problème. Et puis, les grandes masses avaient à souffrir, comme on dit dans le roman, baptisés comme des chrétiens, pressurés comme des morts en Espagne. Et au Maroc, ils sont rejetés en tant que chrétiens. Ils ne sont pas considérés comme des musulmans à part entière. Et puis, à côté de cela, se greffe d'autres facteurs. D'abord, il y a cette guerre civile qui lui donne à réfléchir. Et il y a une phrase dans le roman qui revient très souvent, qui aurait été proclamée par la mère, où elle lui dit en substance, le plus grand ennemi des musulmans à travers l'histoire, ce sont eux-mêmes.
Oui.
Et donc, la manifestation éclatante en est d'abord la chute de l'Espagne et puis toutes ces guerres dont ils ont été responsables par leur division, par un ensemble de facteurs. Et puis, sur place, il a l'occasion de l'éprouver avec cette guerre civile et puis avec la perte de la fameuse bibliothèque du puissant sultan Al-Mansour, hérité par son fils qui s'appelle la bibliothèque Zidania et qui a été perdue dans des circonstances complètement incroyables et qui finit par convaincre Afoquet, lui grand amoureux des livres et grand amoureux du savoir, que le paradis n'était pas de ce monde.
La compensation dans tout ça et à la fin, c'est d'avoir rencontré ses parents. On parlera une autre fois, si vous voulez bien, de cette bibliothèque et de son sort, parce qu'une bonne partie du fonds se trouve à l'Escurial.
Exact.
Cher Mouna Hachim, merci, merci infiniment de nous avoir à la fois édifiés, mais aussi captivés par ce roman historique, de nous avoir parlé de ces manuscrits perdus. C'était Question d'Islam. Chers amis auditeurs, vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attachée d'émission est toujours Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Jean-Michel Bernot et la réalisation est assumée par l'ami Franck Lilin.
مثل الضياء اصغي إلى أرض إلى بعض من الأشياء إلى دبيب اللهب وانحدار الماء إلى نبات هنا بين الرياح يذهب الأموات لم يرحلوا في حفيف الشجر في ارتعاش الغصون في اختلاج الغاب حتى انفجر ومضى يشق السكون
كمثل